EMCI TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femme. Cette semaine, nous serons toute la semaine avec Nadine et aussi avec notre invité, le pasteur Daniel Chéry, qui va passer cette semaine spéciale avec nous pour nous raconter comment il est passé à travers une épreuve, une grande épreuve dans sa vie, il y a maintenant 3 ans. Alors bonjour, bienvenue pasteur Daniel.
Bonjour Annabelle.
Hello pasteur
bonjour,
Daniel.
Nadine.
Donc comme je disais, on va passer cette semaine ensemble. Mm-hmm. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes pasteur à Montréal, oui. Pasteur de l'église Le Refuge, une église qui a 9 ans maintenant, et une belle église, avec plein de jeunes,
oui.
et dans laquelle ton mari a eu l'occasion d'aller, mon mari a aussi eu l'occasion d'aller, pas nous,
il reste que nous, on dit ça comme ça.
Bon, on en parlera après. Et comme je disais, il y a environ 3 ans, vous êtes passé par une épreuve vraiment très, très difficile. Vous avez perdu votre femme. Et puis, vous étiez aussi, tous les deux, vous étiez parents de 4 enfants. 4 enfants qui étaient à l'époque âgés de... du coup, de 10 à 23 ans, c'est ça?
C'est ça, à peu près, oui.
10-23 ans. Donc, c'est certain que ça a bouleversé votre vie. Et cette semaine, nous allons voir comment le pasteur Daniel Chéry est passé et passe à travers ces moments, à la fois en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que père, en tant que mari, et aussi en tant que pasteur, parce que, c'est ça, vous n'avez pas arrêté le ministère, vous êtes toujours pasteur à l'église. Oui. Le Refuge, et donc voilà, donc ça a été, c'était il y a 3 ans, et depuis, Dieu est en train de faire son œuvre de restauration et de consolation, et on se réjouit pour ça, mais du coup, à côté de, comment est-ce que, vous étiez mariés depuis combien de temps?
Bon, mais premièrement, merci beaucoup pour l'invitation, c'est tout un honneur pour moi d'être ici avec vous. Oui, j'aime le fait que vous avez dit que je suis toujours en mode en deuil. Mm-hmm. Je suis toujours en deuil, même après 3 ans. C'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Mm-hmm. On ne doit pas l'accélérer. Mais oui, il y a quelques années, lorsque j'étais au secondaire à Montréal, mm-hmm. j'ai rencontré ma tendre épouse qui, dans ce temps-là, elle n'était pas mon épouse, était juste une amie, Cassandra. Mm-hmm. Elle s'appelait, et puis on s'est rencontrés au secondaire, et puis c'est là qu'on s'est connus. On a perdu de vue pendant quelques années.
Ah oui?
Oui, on a perdu de vue, et puis on s'est revus plusieurs années après, et le Seigneur nous avait appelés à fonder une famille ensemble. Mmh. On avait chacun notre passé, mmh. donc notre famille a été, comme on appelle, des familles reconstituées. Mmh. Mmh. Et ensuite, on a eu ensemble 2 beaux enfants. Et puis, voilà. Et puis, ça a été le début d'une aventure extraordinaire. Et puis, on a fondé l'église, elle et moi, ensemble. On savait pas que le Seigneur nous appelait à quelque chose comme ça. Vraiment pas. Au contraire, moi, j'avais ma vie dans le monde. Et puis, elle aussi. Mm-hmm.
C'est vrai que vous aviez fait un « C'est mon histoire ».
Voilà.
Dans « Bonjour chez vous », le pasteur Daniel nous raconte comment il a été, comment le Seigneur vous a récupéré.
Ah, c'était extraordinaire. Mm-hmm. Il m'a récupéré, elle aussi. Mm-hmm. J'étais le premier à recevoir Jésus comme mon sauveur personnel. Elle aussi, elle avait grandi dans une famille chrétienne, mais la vie, mm-hmm. les amusements de l'extérieur nous ont fait un peu perdre le focus de l'Église. Et ensuite, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que mon changement attirait son attention un peu. Et elle a décidé elle-même également de recevoir Jésus-Christ. Et puis, elle a été baptisée. Et puis, depuis ce temps-là, on évoluait dans les choses de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur nous a appelés à fonder l'Église. Mm-hmm. C'était quand même spécial, la façon qu'il nous appelait, parce que c'était en plein milieu de crise et puis tout ça. Mais à force d'analyser un peu la vie, on disait, OK, je pense qu'on va arrêter de tourner autour des choses et puis on va faire ce que le Seigneur nous demande. Mm-hmm. Donc, en août 2013, On a eu la grâce de fonder l'église Le Refuge et puis on évoluait, puis on avançait, ça allait bien. Une église, comme vous avez dit, qui a beaucoup de jeunes, beaucoup d'activités, des jeunes fous pour le Seigneur, je m'excuse le terme. on aime le Seigneur. Et puis, en 2018, vers la fin de 2017, Cassandra voulait... Elle est rentrée dans un régime où elle voulait perdre du poids. Et puis, bon... moi aussi, j'avais besoin de perdre du poids. Et puis là, j'ai dit, bon, écoute, vas-y, je te suis. Et puis, elle prenait ça au sérieux. Et puis, vers 2018, début de... entre janvier 2018 et juin 2018, la perte de poids était très accélérée. Et puis, chaque fois qu'elle mangeait, elle avait de la difficulté à avaler. Et puis... Pour faire une histoire courte, vers l'été 2018, on s'inquiétait un peu de la perte de poids qui était quand même assez rapide. On parle d'environ 40 livres comme en 6 mois.
Okay. Donc 20 kilos à peu près. 20
kilos,
ouais. Et puis là, elle est allée faire des examens. Au début, les médecins nous disaient que c'était peut-être une bactérie. Et puis, à force de faire des tests, on a découvert vers octobre, c'est octobre 2018, qu'elle avait le cancer de l'estomac. Toute jeune, à 41 ans. Et puis, malheureusement, c'est un type de cancer qui est très rusé, ils disent. Que c'est un type de cancer qui, malheureusement, se découvre à la fin. Lorsqu'il est rendu dans le stade 4. Et lorsque on a appris cela, ça a été très rapide. Entre octobre 2018 et elle est décédée le 13 janvier 2019.
Oh, wow.
Donc imaginez-vous, pendant tout ce temps-là, pendant cette courte période de temps, il fallait que je comprenne, ou je savais même pas c'était quoi le cancer. Je me souviens la première fois qu'elle m'a appelé pour me le dire. Elle m'a dit, Dani, j'ai une tumeur à l'estomac. C'était le cancer de l'estomac. Puis je dis, OK, c'est quand que tu vas faire l'opération? Je comprenais pas, je savais pas. Donc, entre octobre 2018 et janvier 2019, il fallait que j'apprenne c'est quoi le cancer de l'estomac. Comment que je fais pour gérer maintenant cette information? Est-ce que je le dis à l'église? Non. Puis mon épouse était quelqu'un de très réservé. Donc, vous pouvez juste imaginer juste un peu de temps, toute l'information qu'il fallait qu'on gère. Comment le dire aux enfants? Comment le dire à la famille? Et ça a été difficile.
Et pendant ces quelques petits mois, est-ce que vous disiez je peux la perdre, ou alors vous étiez ça va aller, on va trouver une solution, Dieu va agir, il y aura peut-être une opération, un miracle, une guérison?
Certainement, moi j'étais aucunement que mon épouse allait décéder. Pour nous, on voyait ça comme une grande épreuve pour un grand témoignage. C'est des choses qui arrivent. Et on priait, on faisait confiance à Dieu pour que le surnaturel, le miraculeux se produise. Et c'est pas ce que le Seigneur avait décidé. Et pendant cette période, pendant ces quelques mois, c'était très difficile parce que oui, on priait et on avait quand même on avait notre image de la façon que ça allait se terminer, mais en même temps, il fallait gérer l'information, il fallait gérer maintenant les changements. Donc, oui, pour répondre à la question, certainement, je me disais que c'est pas vrai, non, elle va pas mourir. Au contraire, lorsqu'on parlait, elle et moi, on commençait déjà à planifier les livres et puis les témoignages et puis tout ça. Même, je me souviens, je lui disais, mais là, c'est quoi là? C'est toi qui ton ministère va prendre le dessus par-dessus le mien. Il me semble que tu es ma femme, c'est moi le pasteur. Et puis, il dit, ben voilà, ça sera ça. Et puis, lorsque le 13 janvier est arrivé, oh mon Dieu, ma vie, mon monde s'est complètement écroulé, comme un château de cartes qui s'écroule complètement. Et puis ça m'a amené à être déçu, à être déçu, à être même frustré.
Parce que vraiment, le 13 janvier est arrivé par surprise. C'était quand vous avez appris la nouvelle, c'était complètement imprévisible pour vous. Vous étiez zéro préparé à cette éventualité.
Zéro. Cette journée-là, c'est un dimanche. Et on avait service à l'église. Et puis, cette journée-là, j'avais personne pour me remplacer. Et puis, mais juste la veille, elle avait eu une journée qui était extraordinaire. Dans le sens que elle parlait, elle donnait des... Elle rigolait avec tout le monde. Il y avait différents membres de la famille qui étaient venus. Et puis, c'était juste extraordinaire. Et puis, pendant la nuit, ça allait un peu mal. Et le matin du 13 janvier, ça allait pas bien. Et j'ai dit, bon, est-ce que tu veux que je reste avec toi? Elle me disait oui. Donc, j'ai appelé mon frère dans ce temps-là. Puis, je lui ai dit, écoute, je ne sais pas si je vais pouvoir venir au service, donc vous allez devoir vous arranger. Parce que j'étais planifié pour prêcher cette journée-là. Et puis, je lui ai posé la question une dernière fois. Et puis, j'ai dit, Cassandra, est-ce que tu veux que je reste ou... Et puis, elle m'a regardé, puis elle m'a juste dit, vas-y. Et c'est la dernière chose qu'elle m'a dit. Parce que j'étais à l'église. Je lui ai dit, je vais revenir à 4 heures. L'église finissait vers 3 heures. Elle savait que ça me prenait un peu de temps. Et puis, cette journée-là, il y avait vraiment une grâce spéciale à l'église. Le temps de louange était extraordinaire, formidable. Donc, ça a traîné un peu. Puis, il y a une raison pour laquelle je dis ça. Donc, je suis arrivé à l'hôpital à 4h10. Elle était partie à 4 heures exactement. Et vous pouvez imaginer la culpabilité. Je me disais, oh mon Dieu, c'est ma faute, je suis arrivé en retard, elle m'attendait, elle avait peut-être des choses à me dire. Et puis, la dernière chose qu'elle m'a dite, c'est
vas-y.
Vas-y.
Ouais, c'était une parole de foi, d'encouragement, d'envoi. C'était une parole super positive. Ouais. Et du coup, quand c'est arrivé après, on parlera en tant que père et en tant que mari et tout ça, mais là, en tant que chrétien, après avoir cru, est-ce que vous avez... votre foi a été remise en question, a été questionnée?
Certainement. Certainement, parce que comme je disais, ce n'est pas quelque chose que je m'attendais. Je me disais que, OK, je vais revenir et puis je vais lui dire à quel point le service était bien et puis tout ça. Puis quand j'ai reçu l'appel, c'est comme... J'étais encore dans le déni. J'étais, oh non, non, ça va aller. Ça va aller. Je suis arrivé à l'hôpital. J'ai même demandé à ce qu'on sorte. J'ai prié pendant environ au moins une trentaine de minutes. Parce qu'elle m'avait dit que moi, dans notre tête, c'était impossible. Et donc, non. Et là, maintenant, c'est là que toutes les émotions ont commencé à faire surface. Et c'est sûr, c'est normal. Et puis, voilà. Donc, c'était difficile comme journée. C'est difficile. Donc je me souviens, c'est là que les questionnements ont commencé à surgir au fur et à mesure. La déception, les frustrations.
Est-ce que vous l'avez dit à Dieu directement?
Certainement. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Il y a aussi le sentiment d'humiliation. Parce que qu'est-ce que je vais dire? Comment expliquer ça aux enfants? Parce que j'expliquais aux enfants que non, ça va aller, maman va revenir. C'est juste une grande épreuve. Jamais on parlait de mort. On n'était pas du tout préparé pour ça. Donc Là, maintenant, c'est là que j'ai commencé à dire au Seigneur, non, je suis déçu, je suis frustré, je n'étais pas en mesure de prier. Une chance que j'avais beaucoup de gens qui priaient pour moi, parce que je pense que ce sont ces prières-là qui m'ont gardé, porté pendant ce temps-là. Mm-hmm. Et puis la question, la fameuse question qui est très dangereuse, c'est le pourquoi. Mm-hmm. Donc oui, j'étais très déçu. Mais en même temps, ma femme souffrait tellement pendant ce temps, pendant ces 4 mois. Oh mon Dieu, elle a souffert. Mm-hmm. Donc, il y avait en même temps un côté en moi qui était content qu'elle avait fini de souffrir. Mm-hmm. Et puis, il y a une des choses que j'ai compris pendant ce temps-là, puis peut-être que ça peut aider quelqu'un qui est dans un deuil, c'est que si on additionnerait toutes la joie de tous les êtres humains sur Terre, si on prendrait la joie de tous les êtres humains sur Terre et on l'additionnerait, que peu importe le résultat de ce joie-là, n'est pas comparable au niveau de joie que elle a au ciel. Mm-hmm. Et donc, je me suis dit, mais vaut mieux que moi, je souffre avec ma tristesse, mais qu'elle soit mm-hmm. dans la joie avec le Saint-Esprit, avec Dieu, avec Jésus-Christ, mm-hmm. avec elle au ciel, ouais.
Et c'est vrai que c'est... Vu comme ça, c'est très beau, parce que ça va jusqu'au bout. On a cette alliance du mariage et de se dire, bah, je veux encore que l'autre soit plus heureux que moi, même si aujourd'hui je souffre, mais de se dire, elle souffre plus et j'ai de la joie et j'ai de la paix à me dire, elle est mieux, elle est plus heureuse. On voit que c'est le mariage, c'est pour ceux qui pensaient que le mariage était un engagement à la légère, c'est dans ces moments-là qu'on se dit, ça prend tout son sens et toute son ampleur aussi. Et pour en revenir aussi à votre relation avec le Seigneur, vous disiez que vous n'arriviez pas à prier à ce moment-là, et beaucoup de frustration, beaucoup de déception. Et comment est-ce que vous avez réussi à reconnecter avec Dieu, et de la bonne façon?
Mais premièrement, c'est ne pas faire semblant. Mm-hmm. Vous savez, nous les hommes, on est très fiers, on est très... on a beaucoup de force. Avant le départ de Cassandra, je ne me souviens même pas c'est quand la dernière fois que j'avais pleuré. Mm-hmm.
Donc, vous n'étiez pas dans le genre un homme très expressif au niveau de vos émotions?
Non, pas dans les larmes. Mm-hmm. Je m'exprimais bien lorsque mm-hmm. on regarde un match de football. Mais pas dans les larmes. Et puis, j'ai tellement pleuré mm-hmm. et j'ai compris que, en tout cas, mon deuil a commencé, moi, avec ça.
Okay.
D'être vulnérable, Je me souviens, on allait avec les enfants, on continuait à aller à l'église. J'étais pas en mode ministère, donc c'est pas moi qui faisais le ministère. J'avais mm-hmm. des amis, des collègues qui venaient m'aider. Mm-hmm. Donc, ils venaient prêcher à ma place. Mais mm-hmm. une des choses que j'ai toujours voulu faire, c'est d'être sérieux dans mon... Est-ce que vraiment ce que je prêchais, je le croyais?
Mm-hmm. Okay, ouais.
Et moi, je pense que la louange qui coûte le plus, c'est celle qui compte le plus. Mm-hmm. Donc, j'allais à l'église et puis j'adorais le Seigneur dans les larmes. Mm-hmm. Dans les larmes. J'avais pas honte de pleurer devant le peuple. Mm-hmm. Je trouvais que c'était nécessaire pour que le peuple voie la vulnérabilité du pasteur. Mm-hmm. Et puis, je pleurais, mes enfants aussi. Et puis, on continuait à aller à l'église. Et puis tout a commencé, moi, mon deuil a commencé par ne pas faire semblant. Mm-hmm. Laisse les émotions sortir, laisse les larmes sortir. C'était très, très, très thérapeutique. Mm-hmm. Maintenant, j'avais jamais vraiment... Ça arrivait rarement lorsque, en adorant, je pleurais, mais maintenant, ça m'arrive tout le temps. et j'en suis content parce que ça m'a permis de... En tout cas, cette première étape de mon deuil, de verser les larmes, puis de ne pas faire semblant, puis de montrer que... d'accepter que tu es un être humain. Mm-hmm. D'accepter qu'on n'est pas des super-héros. ça m'a humilié d'une manière extraordinaire. Mm-hmm. Donc, ouais.
Vous avez senti que vous aviez le choix, qu'à un moment donné, vous avez pris le choix d'être vulnérable et puis de prendre ce chemin-là, mais que vous aviez aussi le choix de vous renfermer.
Ouais. Oui, certainement, parce que mon réflexe, c'était ça.
Ouais.
C'était surtout, j'avais beaucoup de points d'interrogation, puis j'avais des comptes à rendre aussi à l'Assemblée, puis à mes enfants. Donc, mon réflexe, c'était de me cacher. Mm-hmm. Mais plus je me cachais, plus j'avais mal. Donc, j'ai commencé juste à... C'est pas quelque chose comme si qu'on m'avait dit de faire. Mm-hmm. Je l'ai fait instantanément, instinctivement. Mm-hmm. Et puis, ça a été une clé majeure dans mon processus de deuil. Mm-hmm. C'est de laisser les émotions sortir, d'exprimer à Dieu notre déception, de lui dire que j'étais pas content. Je sais pas si je peux apprécier là de la prière, mais des fois, je faisais juste dire, Seigneur, là, ça va pas. Là, je suis fâché. Là, mm-hmm. Seigneur, ça marche pas. Et comme je disais tout à l'heure, j'avais de la difficulté à prier parce que, pour être franc avec vous, pendant plusieurs mois, mm-hmm. c'est les gens qui priaient pour moi. Mm-hmm. Et c'est là que je vois l'importance d'avoir des gens qui prient pour nous. Ça a vraiment un effet dans nos vies. Et tranquillement, pas vite, je reprenais ma vie de prière lentement, ouais. Mais sûrement.
Moi, j'ai une question par rapport à... Tu dis tout à l'heure que tu étais vraiment... les larmes ont été comme le déclencheur un petit peu de ce processus, du début de ce processus. Qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui est coincé, qui est bloqué peut-être dans le pourquoi ou qui est bloqué dans du déni ou qui n'arrive même pas à pleurer parce que c'est comme c'est trop... La surprise est tellement grande qu'on est coincé, on n'arrive pas en fait à passer par-dessus et à commencer son processus.
L'une des choses qui m'a aidé et qui continue à m'aider, c'est d'avoir une nouvelle perspective de la mort. La mort, j'entendais Billy Graham qui disait que la mort est comme un changement d'adresse. Mm-hmm. C'est comme une relocalisation. Et lorsque on analyse la mort à la lumière des Écritures, on voit que c'est une séparation qui est temporaire et non permanente. On a quand même mal, mais il y a de l'espoir. Donc, moi, l'une des choses aussi qui m'a aidé, c'est, oui, vider les larmes, mais aussi réinterpréter la mort. Et puis, commencer à chercher qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça. Comme je disais tout à l'heure, de comprendre que sa joie, elle dépasse de loin la nôtre. Mm-hmm. De comprendre aussi que c'est juste que c'est une séparation. Et aussi, l'une des choses qui m'a beaucoup aidé, c'est de prendre au sérieux les gens qui me restent.
Ouais.
Maintenant.
Ouais.
Mes enfants, ma famille, mm-hmm. et de voir que j'ai des gens à aimer là. Mm-hmm. Il y a des gens qui sont encore autour de moi. Mm-hmm. Donc, c'est pas des choses qui vont enlever la douleur du deuil instantanément, mais ça aide dans le processus. Mm. Ouais.
Et pour terminer cette émission, Pasteur Daniel, j'aimerais qu'on puisse prier pour les personnes, ces personnes, Nadine, dont tu parlais. Si vous souffrez encore d'un deuil, mais vous sentez que vous n'avez pas réussi à ouvrir pleinement votre cœur, à ouvrir pleinement votre cœur à Dieu, à lui dire ce qu'il y avait dans votre cœur, et vous avez même nourri de l'amertume vis-à-vis de lui, et ça a créé une séparation avec lui, ça a créé une colère contre lui. Et aujourd'hui, quand vous écoutez l'histoire du pasteur Daniel, vous réalisez que oui, vous avez cette colère contre Dieu, mais que vous n'avez jamais exprimé, et que du coup, ça n'a jamais pu être traité. On aimerait prier pour vous aujourd'hui parce que je crois que c'est le début de, pour pouvoir faire un vrai deuil, un deuil avec le Seigneur, un deuil où vous allez lui laisser la place, où il ne sera plus le méchant dans l'histoire, mais il sera celui qui va vous apporter la consolation, celui qui va pouvoir manifester sa bonté, celui qui est fidèle malgré vos interrogations, malgré tellement de choses, de questions auxquelles vous n'avez pas encore de réponse. Mais je crois qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit veut faire cette œuvre. Est-ce que vous voulez prier?
Oui, bien sûr. Alléluia. Donc, s'il y a quelqu'un qui est dans la tristesse, peu importe le temps où ce que tu regardes cette émission, je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses fortifier, Seigneur, cette personne qui nous écoute, qui est déchirée, Seigneur, dans son cœur, qui a de la peine, Seigneur, qui est triste. Père, cette œuvre que tu fais dans mon cœur, Père, je prie que tu puisses la faire dans le cœur de mon frère, de ma sœur qui m'écoute, Seigneur, en cette journée. Seigneur, nous prions, toi qui es le consolateur par excellence. Seigneur, tu es ton Saint-Esprit, Seigneur, nous console. Et je prie, Seigneur, que tu puisses consoler. Seigneur, cette personne qui se pose des questions, cette personne, Seigneur, qui peut-être même a décidé peut-être même d'abandonner tout. Je prie, Seigneur, que tu puisses consoler dans le nom de Jésus, que ton Saint-Esprit touche d'une manière spéciale. Et Père, que Seigneur, tu puisses consoler mentalement dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Il y a quelqu'un, Seigneur, qui m'écoute, Seigneur, qui a beaucoup de questionnements, de points d'interrogation. Père, Saint-Esprit de Dieu, touche la mentalité de cette personne, touche les pensées de cet individu. Seigneur, Père, nous prions pour celle qui pleure, celui qui pleure, Père, que nous te faisons confiance, Seigneur, que tu vas changer, Seigneur, cette tristesse en joie, Papa, que tu vas même changer, Seigneur, ce deuil, Père. Tu vas donner un nouveau manteau à cette personne qui nous écoute, Père. Tous ceux qui sont blessés par le départ d'un individu ou d'une personne, d'un être cher, nous prions aujourd'hui que le Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit, le Consolateur, puisse consoler les cœurs, consoler les esprits, consoler les pensées, consoler les émotions. Et Seigneur Père, nous te faisons confiance parce que tu es bon et ta bonté, ta miséricorde durera toujours. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Amen. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Daniel. Et je crois que si vous avez perdu un être cher, c'est pas forcément un conjoint, un mari ou une femme, mais un être cher et ça vous a peiné. Aujourd'hui, vous sentez encore que c'est difficile. Je vous encourage à rester avec nous tout au long de cette semaine. C'est vrai, on parle de deuil. C'est vrai, on parle de mort. Mais nous croyons que l'Esprit de Dieu, qui est un esprit de vie, va venir vous rafraîchir, va venir vous consoler, va venir ressusciter aussi des choses qui sont mortes avec cette personne. Et vous n'avez même plus l'espoir qu'un jour ça puisse reprendre vie. Mais je crois que oui, cette semaine est une semaine de vie. Et comme le pasteur Daniel l'a dit, il a redéfini la mort. Il a revisité sa conception, la définition de la mort. Et si vous avez perdu un être cher qui est sauvé et qui est maintenant dans la présence de Dieu, sachez que oui, non seulement il est plus heureux que toutes les personnes sur la terre réunies, mais il est plus vivant même que nous tous, parce qu'il est là où il y a la vie éternelle. Il expérimente l'absolu de la vie éternelle. Il est avec celui qui est la vie. Et vraiment, je vous encourage à rester avec nous. C'est une semaine de vie. C'est une semaine de restauration, une semaine de consolation. Et si votre cœur est brisé, le Saint-Esprit, je crois, va faire une œuvre en vous pour vous permettre de pouvoir vivre un deuil qui va vous amener à reconquérir votre vie, la vie que Dieu a pour vous. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes sur emcitv.com.